RFI, il est 14h30 à Paris, midi et demi en temps universel. Et Afrique Midi, c'est avec vous, Nicolas Sur, bonjour.
Bonjour Alban Le Prince, bonjour à toutes et à tous. Au Mali, le Conseil des ministres adopte un projet de loi qui donne un mandat de président de 5 ans pour le général Assimi Goïta. Un mandat renouvelable, sans élection, jusqu'à la pacification totale du pays. Le Mali, où le groupe Wagner a détenu et torturé des centaines de civils dans des prisons secrètes, révélation du consortium de presse Forbidden Stories, histoire interdite. Guillaume Vénétité, journaliste à Forbidden Stories, est notre invité. La chef de la MONUSCO attendue aujourd'hui à Goma, 5 mois après que la capitale du Nord Kivu est passée sous le contrôle de l'AFC M23. Bintou Keïta doit s'entretenir avec le patron du mouvement armé, Corneille Nanga. Un gadget qui connaît un grand succès à Madagascar à l'approche de la fête nationale. Ça ne coûte pratiquement rien, mais c'est très dangereux pour les avions et pour les automobilistes. On parle de pointeurs laser qui émettent des faisceaux lumineux sur des kilomètres de distance. À Antananarivo, le gouvernement promet des mesures. Au Mali, le Conseil des ministres a adopté hier le projet de loi qui prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps au général Assimi Goïta. Déjà président de la transition, Assimi Goïta resterait à la tête de l'État pendant au moins 5 années supplémentaires et ce mandat sera renouvelable, David Bachet, sans élection jusqu'à la pacification totale du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel.
Oui, alors le projet de loi doit encore être voté par le Conseil national de transition qui est acquis au régime en place. Sa justification officielle est quelque peu tortueuse. Malgré l'adoption d'une nouvelle constitution qui avait nécessité l'organisation d'un scrutin en juin 2023 et malgré le contrôle de l'ensemble du territoire par les forces armées, le Mali et les autres pays de l'AES sont toujours confrontés à la menace de la déstabilisation internationale. En résumé, la transition avait déjà organisé un vote il y a 2 ans. La situation sécuritaire se serait encore améliorée depuis, selon les autorités, mais des élections sont impossibles. La France n'est pas citée, mais la référence à une déstabilisation internationale fait écho aux innombrables accusations déjà portées contre Paris.
Alors, c'est une étape importante, mais ce plan, en fait, était déjà annoncé. Il faisait partie, fin avril, des recommandations phares des concertations des forces vives de la nation.
Orchestrées par les autorités, dans des conditions opaques et perçues par l'opposition comme une mascarade. Après la dissolution de tous les partis politiques maliens, le maintien au pouvoir du général Assimi Goïta et des institutions de la transition est donc enclenché. Les premières réactions sont à l'image du Mali actuel, radicalement polarisé. Les soutiens du régime en place exultent et publient sur les réseaux sociaux des messages de félicitations et de victoire, saluant la construction d'un État digne, souverain et durable ou encore le sauvetage du Mali face à l'impérialisme. Les opposants déplorent quant à eux que le Mali sombre encore davantage et dénoncent un braquage politique maquillé en texte de loi. Le journaliste malien en exil, Malik Konaté, s'attriste de l'enterrement en grande pompe du Mali républicain. Aujourd'hui, écrit-il, le régime militaire n'est plus déguisé, il est paré du boubou neuf de la dictature.
L'actualité en République démocratique du Congo, presque 5 mois après que Goma est tombé entre les mains de l'AFC M23 appuyé par l'armée rwandaise, la chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, se rend sur place. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, doit s'y entretenir avec les représentants du mouvement armé, dont son coordonnateur, Corneille Nanga, de la situation sur place et de l'impact du conflit sur la population. Passion Ligodi, c'est une rencontre qu'on va suivre avec attention.
Oui, Nicolas, cette visite intervient au lendemain de la publication du rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les BCNUDH, un rapport accablant pour l'AFCM 23. Comme le mois précédent, la majorité de violations et atteintes aux droits humains enregistrées en avril sont attribuées aux groupes armés et en tête, l'AFCM 23 appuyé par l'armée rwandaise, dit le rapport. Viennent ensuite les groupes Wazalendo favorables au gouvernement. Il faut aussi dire que les relations entre la MONUSCO et l'AFCM 23 n'ont jamais été simples. Certains cadres du mouvement politico-armé continuent de considérer la MONUSCO comme une force belligérante vaincue au même titre que l'armée congolaise. Il y a 2 mois, Bintou Keïta a dénoncé devant le Conseil de sécurité les restrictions imposées à la mission dans les zones sous contrôle de l'AFCM 23, des restrictions comme les barrages routiers ou l'exigence d'un préavis de 48 heures pour les convois renvoi, disent les sources onusiennes. Mais malgré ces contextes tendus, les dialogues n'ont pas été rompus. Ces dernières semaines, certaines restrictions ont été levées à Goma et dans ses environs. La mission a pu réapprovisionner ses bases avec l'appui de ses propres escortes militaires. Cette visite de Bintou Keïta est jugée importante aussi parce qu'elle intervient deux semaines avant le prochain briefing de Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité prévu le 27 juin, un briefing consacré à la situation en RDC.
Les résultats provisoires des législatives et des municipales du 5 juin au Burundi, la CENI, la commission électorale, les a proclamés hier après-midi au cours d'une cérémonie officielle à Bujumbura. Esdras Dikoumana, le scrutin a été très controversé, les résultats le sont tout autant, car le CNDD-FDD au pouvoir a raflé tous les sièges en jeu.
Oui, Nicolas, le secrétaire général du CNDD-FDD en avait fait un objectif, avoir 100% aux législatives. Le parti au pouvoir ne cache donc pas sa joie aujourd'hui. Il s'empare des 100 sièges qui étaient en jeu avec un score plus que soviétique, plus de 96% des voix exprimées selon les résultats provisoires. Et pour tenir compte des équilibres ethniques et de genre qui sont prévus par la Constitution, 60% de Hutus, 40% de Tutsis, au moins 30% de femmes, la CENI a ajouté à la liste 3 députés de l'ethnie Twa, ainsi que 8 députés Hutus issus du CNDD-FDD, c'est la loi qui le veut, ce qui donne un total de 111 députés pour la nouvelle législature.
Alors l'opposition est montée au créneau, elle dénonce un hold-up électoral.
Oui, c'est le cas de l'ancien parti unique UPRONAD, arrivé deuxième aux législatives selon la CENI, mais qui est loin, très très loin du CNDD-FDD avec seulement 1,36% des voix. Il accuse le parti au pouvoir d'avoir tué la démocratie au Burundi. Son secrétaire général, Olivier Nkurunziza, Nziza parle de résultats fantaisistes en pointant par exemple le fait que le parti au pouvoir a obtenu dans certaines communes 100% des voix, ce qui signifierait, dit-il, que même les candidats d'opposition ont voté pour le CNDD, FDD ou qu'il n'y a eu aucun bulletin nul, absurde et même ridicule, tranche-t-il. Exclusion du principal opposant de la course électorale, répression ou encore censure, Human Rights Watch estime que le CNDD, FDD n'a pas voulu prendre de risques lors de ces élections, notamment à cause des frustrations grandissantes au sein de la population et qui sont dues à la grave crise économique que traverse le pays.
Tollé au Kenya après la mort en détention d'un jeune homme de 31 ans dans la nuit de samedi à dimanche. L'autopsie a établi qu'il a succombé au coup d'une tierce personne. La police, elle, avait affirmé qu'il s'était cogné la tête contre le mur de sa cellule. Les responsables des forces de l'ordre sont sur la sellette, Alban Tiroir.
Les sénateurs ont convoqué hier plusieurs hauts responsables sécuritaires pour répondre à leurs questions autour du décès d'Alberto Juang. Parmi eux, le chef de la police, Douglas Kanja. Durement questionné, il a reconnu une faute. Ce n'est pas vrai qu'Alberto Juang s'est cogné la tête contre le mur. Je présente mes excuses de la part de la police pour cette information, a-t-il concédé, avant de promettre des mesures disciplinaires après les conclusions de l'enquête. L'AIPOA, la police des polices, a assuré que son rapport serait prêt dans 10 jours. Sa vice-présidente a toutefois déploré l'absence des images de vidéosurveillance de la nuit en question, trafiquées selon elle. La séance au Sénat a aussi apporté plus de précisions sur l'arrestation d'Alberto Juang. On savait qu'elle avait été déclenchée par une plainte du numéro 2 de la police. On sait désormais que la plainte concernait des publications sur X l'accusant de corruption, notamment d'avoir placé des officiers loyaux à des postes de contrôle de flux financiers. Ces derniers jours, les appels à sa démission se sont multipliés. Ce drame des mains de la police est déchirant et inadmissible, a jugé hier William Ruto. Alors que la contestation monte, le président a appelé à ne pas émettre de jugement prématuré. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
En Tunisie, un dernier adieu hier à Hicham Mirawi. Ce coiffeur originaire de Tunisie a été abattu par l'un de ses voisins le 31 mai à Puget-sur-Argence, dans le sud de la France où il résidait. Un assassinat raciste revendiqué dans des vidéos dont le parquet antiterroriste français s'est saisi. Le corps de la victime a été rapatrié dans son pays natal. Les obsèques, empreintes d'émotion et d'indignation, étaient organisées hier dans sa ville de Kérouan. Reportage Lilia Blaise.
Les pleurs de la mère et des 6 sœurs d'Hicham Mirawi témoignent d'une douleur encore très vive, 10 jours après la mort de leurs proches. Cela faisait 8 ans qu'il n'était pas rentré en Tunisie. Sa sœur, Hanen, est venue de France pour accompagner le corps de son frère.
Il était loin de notre mère, mais on se parlait sans arrêt avec les frères et sœurs, lui et maman. Notre mère est malade et il souffrait de ne pas la voir pendant tout ce temps. Et là, il rentre au pays dans un cercueil. Vous trouvez ça normal ?
Son frère Adel explique qu'Hicham Mirawi aidait sa mère financièrement. Et faute de papiers en règle, il n'avait pas pu rentrer en Tunisie pour l'enterrement de son père 3 ans plus tôt.
Pendant longtemps, c'était la galère. Il devait faire des allers-retours entre l'Italie et la France. Mais là, il avait enfin pris un avocat depuis plusieurs mois et s'était mis en règle. Il avait lancé la procédure pour la carte d'identité et avait prévu de rentrer nous voir cet été.
Sa cousine Mouna, qui vit en France, craint en tant que binationale la suite de ce crime.
Moi-même, j'ai été victime d'actes racistes par des paroles, etc. Mais j'aurais jamais cru que ça puisse en arriver là. Parce que maintenant, je me dis que ça peut me toucher à moi, mes enfants, mes cousins, mes cousines.
Après avoir emmené le corps à la mosquée pour une prière funéraire, les proches d'Hicham l'ont inhumé dans le cimetière à proximité, en fin d'après-midi. Lilia Blaise, Kérouan, RFI.
Il est 14h41 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, au sommet de l'ONU sur l'océan, le coup de gueule des petits pêcheurs africains contre les bateaux-usines étrangers qui se sont installés au large de leurs côtes. Et des sanctions pour dopage contre les vainqueurs de la mythique ascension du Mont Cameroun. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce jeudi, au Nigeria, le mouvement Take It Back renonce finalement à manifester en cette journée de la démocratie. Un gros déploiement des forces de sécurité à Lagos et à Abuja notamment a dissuadé les membres et les sympathisants de ce mouvement de se rassembler. Le mouvement Take It Back dénonce depuis plusieurs mois les problèmes économiques et de sécurité auxquels font face des dizaines de millions de Nigérians. La conférence des Nations Unies sur l'océan se poursuit à Nice. Une poignée de représentants des petits pêcheurs et de militants africains ont fait le déplacement dans la métropole du sud de la France pour tenter de se faire entendre et dénoncer l'impact de la pêche industrielle au large de leur pays. Jeanne Richard, des navires chinois, européens ou turcs pêchent sans limite, sardinelles, chinchards ou maquereaux, pour alimenter les usines de farine de poisson.
Au large des côtes ouest-africaines, des centaines d'immenses bateaux-usines, capables de pêcher des milliers de tonnes de poissons chaque jour. Le tout pour alimenter les usines de farine et d'huile de poisson, pour nourrir les animaux d'élevage en Europe. Et cela révolte Mansour Bouadaha, président de l'ONG mauritanienne Zakia.
Ils exportent, cette dernière année, une quantité de 6 millions de tonnes de poissons frais. Ça pour nourrir les porcs, les chiens, l'aquaculture, je ne suis pas contre les animaux. Mais on a besoin du poisson. La Mauritanie, le Sénégal, la sous-région. On ne peut pas laisser une quantité énorme détruite par ces bandes de mafias.
En plus de l'impact écologique de ces usines qui rejettent leurs déchets en mer, qui consomment de grandes quantités d'eau douce et qui vident les océans de leurs poissons, ce sont les populations locales qui souffrent, explique Moustapha Mané, journaliste et militant gambien.
Mes cousins étaient pêcheurs, mais ils ont dû partir. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas rester dans leur pays, c'est parce qu'on leur a volé leur avenir. Les pêcheurs artisanaux qui ne trouvent plus de poissons à cause de la pêche industrielle, maintenant doivent se reconvertir en passeurs de migrants clandestins.
Ils espèrent qu'à l'UNOC, leur message sera entendu et qu'enfin cesse ce pillage au large des côtes africaines.
Le fléau du dopage frappe une épreuve phare de l'athlétisme africain. On parle de l'ascension du Mont Cameroun à plus de 4000 mètres de hauteur. Disputée le 22 février dernier, la 30e édition de ce qu'on appelle la course de l'espoir a vu deux de ses médaillés épinglés, le vainqueur Ousseini Hassan et le troisième de l'épreuve masculine Abdou Amadou, qui viennent d'être sanctionnés, Joël Wadem.
Après la dernière ascension du Mont Cameroun, les trois premiers athlètes, monsieur et dame, ont été soumis à des tests antidopage. Robert Nzana, président de l'agence antidopage du Cameroun, explique.
Les échantillons ont été envoyés au laboratoire Paris-Saclay, avec qui nous avons les accords. Quelques semaines plus tard, les résultats sont revenus, RAA, c'est-à-dire les résultats d'analyse anormale.
Les résultats ont révélé la présence du tramadol dans les urines du Ousseini Hassan, le vainqueur de l'épreuve en monsieur. La sentence de l'agence antidopage a été immédiate. L'athlète de 29 ans, sans aucun autre palmarès connu, est déchu de son titre et devra rembourser les 10 millions de francs CFA de primes perçues. Il écope également d'une suspension de 4 ans. Le deuxième athlète suspendu pour une durée de 4 ans pour dopage est Abdou Amadou, le troisième de l'épreuve. Il avait préféré fuir le contrôle plutôt que de risquer de voir son prélèvement détecter un produit interdit. Selon l'agence antidopage du Cameroun, les deux athlètes ont encore la possibilité de faire appel de leur condamnation. 600 compétiteurs de 12 pays ont participé à l'édition 2025 de l'ascension du Mont Cameroun. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
C'est un étrange ballet lumineux devenu récurrent depuis mi-mai dans le ciel d'Antananarivo. Des faisceaux de lumière verte, ils sont émis en fait par des pointeurs laser dont certains ont une portée impressionnante jusqu'à 15 km. À l'approche de la fête nationale, ce gadget connaît un grand succès dans la population. Problème, des plaisantins ont tendance à viser les avions et les automobiles et c'est un sérieux problème de sécurité. Reportage Sarah Teto.
Éblouis par des dizaines de lasers braqués sur leur appareil, plusieurs pilotes et leur compagnie ont alerté l'aviation civile malgache du problème de sécurité que ces petits objets, vendus quelques dizaines d'arrière sur les trottoirs, pouvaient causer. C'est pire que les années précédentes, confie un commandant de bord. Lors de l'approche de la piste d'atterrissage, les pilotes doivent en effet effectuer un circuit visuel extérieur-intérieur pour garder une trajectoire bien précise. Désormais, ils doivent aussi éviter de croiser du regard ces lasers aveuglants. Une nouvelle menace à gérer donc, que le ministre des Transports, Valérie Ramonzaveilo, dit prendre très au sérieux.
Face aux attaques de pointeurs laser dans l'aviation, mais également aussi sur les routes, le gouvernement va prendre des mesures sur ce sujet.
L'urgence, explique le ministre, c'est d'abord de sensibiliser les utilisateurs de ces lasers, souvent bien inconscients des dangers qu'ils peuvent causer. Ensuite,
nous allons proposer donc un arrêté interministériel qui va concerner aussi bien pour éviter les importations, pour dire que ça a des répercussions sur la santé. Ça a toujours été plus ou moins accepté, mais maintenant donc on va prohiber tout ça. Voilà. On voudrait faire ça dans les meilleurs délais. L'objectif, c'est qu'on puisse sauver des vies et qu'on puisse éviter des accidents.
Interdire l'importation, sans doute le nerf de la guerre. Madagascar a interdit il y a 10 ans l'usage et la vente de pétards, mais en l'absence d'interdiction d'importation prononcée, les petits explosifs continuent chaque année à proliférer sur les marchés à l'approche de la fête nationale. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Il est 15h46 à Antananarivo. Alban Le Prince, les grands titres de ce jeudi 12 juin.
Il n'y a aucun survivant, c'est ce qu'affirme la police après le crash ce matin à Ahmedabad en Inde, juste après son décollage d'un avion à destination de Londres de la compagnie Air India. Il transportait 242 personnes. Après ce drame, Boeing se dit prêt à aider Air India. Le roi Charles III lui est extrêmement choqué. 9 policiers ont été blessés, 6 personnes arrêtées, dont 3 adolescents. Bilan dressé tout à l'heure par la police après une 3e nuit d'émeute anti-immigration en Irlande du Nord. Les heurts se sont principalement concentrés dans la ville de Ballymena, à 50 kilomètres de Belfast. Et puis au Proche-Orient, l'armée israélienne appelle les habitants de plusieurs secteurs de la ville de Gaza à évacuer. Parallèlement, la défense civile de Gaza a annoncé en début d'après-midi la mort de 22 personnes dans des attaques israéliennes, dont 16 tuées alors qu'elles attendaient des distributions d'aide alimentaire. Torture et disparition forcée, plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali. C'est le titre d'une nouvelle enquête du consortium de presse Forbidden Stories, histoire interdite. Il poursuit, ce consortium, le travail de journalistes assassinés, en l'occurrence celui de la journaliste ukrainienne Victoria Roshina, morte en prison alors qu'elle enquêtait sur les détentions illégales de civils dans les territoires occupés par la Russie. Leur travail a mené les journalistes de Forbidden Stories et d'autres médias partenaires très loin de la Russie et de l'Ukraine, au Mali, où le groupe paramilitaire russe Wagner a exporté ses méthodes d'enfermement et de torture. Guillaume Vénétité, journaliste à Forbidden Stories, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Guillaume Vénétité.
Bonjour.
Depuis leur arrivée au Mali fin 2021, écrivez-vous, les mercenaires de Wagner ont arrêté, enfermé et torturé des centaines de civils dans des prisons secrètes. Vous en avez identifié au moins 6. Ces centres de détention, ils sont où ?
Alors, ces centres de détention, ils se trouvent soit dans des camps militaires de l'armée malienne, qui a fait appel aux mercenaires de Wagner depuis la fin de l'année 2021, ou dans d'anciennes bases de l'ONU, donc de la force de stabilisation de l'ONU, qui s'appelait la MINUSMA, et qui est partie du pays justement à la fin de l'année 2023. Et donc, au cours de leurs opérations, l'armée malienne et les mercenaires de Wagner se déplacent à travers le pays, dans le nord et dans le centre notamment, pour combattre les groupes djihadistes et investissent souvent justement ces camps militaires et ces anciennes bases de l'ONU, où ils opèrent et ont donc ces prisons secrètes dans lesquelles ils détiennent des dizaines et des centaines de civils, si on prend au total.
Qui sont les civils arrêtés ? Qu'est-ce qu'on leur reproche ?
Alors, en fait, les civils, ce sont bien souvent, et même majoritairement des innocents, tout le temps des innocents. En fait, ils sont assimilés à des groupes djihadistes. En fait, là, souvent, les forces maliennes et les forces russes assimilent en fait les personnes qui vivent sur ces territoires à des djihadistes, juste parce qu'ils vivent à côté d'eux. Et ce sont souvent des bergers, des commerçants qui sont ciblés. Et parfois, justement, le groupe Wagner en profite notamment pour piller à la fois ces commerçants ou le bétail de ces éleveurs nomades.
Ils sont majoritairement peuls ou touaregs et ils ont le tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment en quelque sorte, quand Wagner passe dans les localités où ils se trouvent.
Oui, voilà. Vous avez souvent des patrouilles en fait, c'est-à-dire que Wagner et l'armée malienne partent souvent en opération justement pour débusquer des terroristes ou alors faire des interrogatoires, interroger des villageois pour avoir des informations sur ce qu'il se passe dans certaines zones. On a l'exemple près de Nampala en fait où l'armée malienne a rassemblé avec Wagner des centaines de villageois pour essayer de trouver justement quelqu'un qui supposément communiquait avec les djihadistes du groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda. Et donc, voilà, c'est parfois plusieurs civils sont embarqués durant ces patrouilles, durant ces opérations, de manière totalement arbitraire. Et certains, justement, finissent dans ces camps et dans ces prisons où ils sont interrogés et torturés.
Oui, vous avez recueilli des témoignages de prisonniers qui ont pu en sortir et qui sont aujourd'hui réfugiés en dehors du Mali pour la plupart. Leurs récits ont beaucoup de points communs. Que racontent-ils sur la détention ?
Alors, la détention, souvent, elle démarre justement par cette arrestation totalement arbitraire, très soudaine, qui peut être dans leur village, dans leur commerce, ou justement un déplacement s'ils sont des bergers. Et ensuite, quand ils arrivent en détention, il y a souvent les premiers interrogatoires qui sont très violents, avec des coups, souvent de la torture, souvent des simulacres de noyades, par exemple. Et on leur demande, est-ce que vous connaissez des djihadistes ? Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur cette personne ? Et souvent, les civils qui n'ont rien à voir avec ça, justement, n'ont pas d'informations. Et on continue à les frapper ou à les détenir pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, pour essayer de leur soutirer des informations. Et aussi, en fait, ces disparitions, ces enlèvements, parce que les familles qui sont justement en dehors, qui attendent des nouvelles de leurs proches, en fait, ça crée un climat de terreur, puisqu'on se dit, en fait, si on coopère pas avec l'armée malienne et les Wagner, il nous arrivera le même sort, personne ne saura ce qu'on est devenu. Donc voilà, ça crée un climat de peur, de terreur sur lequel Wagner et les FAMA jouent beaucoup.
Alors Wagner opère avec l'armée malienne, quel est le rôle des FAMA dans ces détentions ? Vous dites, je crois, Wagner fait ce qu'il veut.
Voilà, c'est un officier malien sous couvert d'anonymat qui nous l'a raconté, qui l'a raconté à notre consortium et à nos partenaires du Monde. En fait, les FAMA, souvent dans les camps, ne sont pas du tout dans la même partie que les Wagner investissent. Par exemple, sur la base de Nampala, on a eu plusieurs témoignages qu'on a pu recouper sur lesquels on nous dit en fait que Wagner opère dans un bâtiment tout seul, à ces pièces dans lesquelles ils détiennent des personnes, des toilettes dans lesquelles ils ont enfermé des personnes qu'ils avaient frappées. Et les Maliens sont de l'autre côté du camp, ils n'ont pas accès à cette partie-là. Et quand justement notre témoin a été libéré, un de nos témoins a été libéré, et lui il a été conduit justement jusqu'au FAMA, qui eux ensuite l'ont ramené au village. Voilà.
Et d'autres prisonniers sont parfois ensuite livrés à la gendarmerie malienne où ils font face à des accusations factices.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand les FAMA récupèrent ces prisonniers, souvent ils les délivrent à la gendarmerie, qui ensuite peut les traduire en justice pour des accusations factices. Certains anciens prisonniers, nous ont dit qu'ils devaient payer des cautions, donc justement qu'ils devaient payer beaucoup d'argent pour finalement être libérés. Et vous avez aussi des rançons qui sont parfois payées directement au Wagner. Voilà.
Mmh. Guillaume Venetite, Wagner va être remplacé par Africa Corps, une structure directement pilotée par le ministère russe de la Défense. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça change quelque chose aux pratiques atroces que vous avez observées dans ces centres de détention clandestins du Mali ?
Alors, pour l'instant, c'est un peu le flou. Ce qu'on sait, c'est qu'une grande partie, en tout cas, des anciens mercenaires de Wagner ont été recrutés dans les structures d'Africa Corps. Wagner au plus haut, au Mali, c'était environ 2400 mercenaires. Et là, selon nos sources, on sait qu'il y a environ 1500 hommes d'Africa Corps qui sont arrivés au Mali depuis mi-décembre 2024. Le déploiement est assez lent. Pour l'instant, les structures et les modes opératoires sont assez différents. C'est-à-dire que pour l'instant, Africa Corps n'est pas trop sur les zones de combat, mais l'armée malienne souhaite les voir au combat. Donc, très probablement, on va les voir opérer justement sur le terrain, et il faudra voir justement comment se comportent les anciens mercenaires de Wagner qui ont toujours opéré de la même façon. Donc il faudra voir comment ils opèrent, mais voilà, on va pas se projeter, mais ils ont un passif assez lourd, en tout cas dans leur pratique d'exaction, de torture et donc d'enfermement arbitraire.
Il faudra voir comment opèrent ces anciens mercenaires de Wagner sous la nouvelle bannière Africa Corps.
Voilà, tout à fait.
Merci Guillaume Venetite. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Torture et disparition forcée, plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali. L'enquête est à retrouver en intégralité sur le site de Forbidden Stories, forbiddenstories.org, et sur celui des médias partenaires, dont la chaîne de télévision France 24. Et on part à présent en Côte d'Ivoire, où la campagne du Karité a démarré. La Côte d'Ivoire est classée 5e producteur mondial. Avec le début de la saison des pluies dans le nord du pays, les femmes s'activent pour le ramassage. Abouna, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le reportage de Binta Diagne.
C'est un espace communautaire en périphérie de Bouna. Plusieurs femmes sont accroupies et ramassent des amandes de karité. Il faut aller vite, car un troupeau de bœufs dévore les fruits mûrs tombés au pied des arbres de karité, comme l'explique Beningue Layan.
Je viens ici très tôt, vers 5h30, car ce fruit est prisé par tous les animaux à cause de sa pulpe qui est très sucrée. Il faut être rapide pour le récolter avant eux.
Cette activité attire plus de monde, car la précédente campagne a été favorable. En effet, sur les marchés internationaux, les amandes de Côte d'Ivoire étaient montées en flèche l'an dernier, après que le Mali et le Burkina ont pris des mesures pour suspendre l'exportation de leurs amandes de karité. Cette hausse a attiré plus de femmes dans la collecte des amandes. En période de récolte, ces travailleuses peuvent gagner jusqu'à 2500 francs CFA par jour. Parmi elles, Kamoussan Bena, cette activité lui permet d'améliorer sa qualité de vie.
L'activité se porte bien. Avant, je ramassais beaucoup d'amandes de karité, mais les prix étaient faibles. Depuis l'an dernier, ça a changé. Je fais des bénéfices. Par exemple, cet argent me sert à scolariser mes enfants.
Une fois récoltées, ces amandes sont ensuite vendues à des coopératives, à l'image de Scoop Prokokab, qui regroupe 600 femmes à Bouna. Cette coopérative transforme ce fruit en beurre de karité. La hausse des prix sur les marchés internationaux a été répercutée sur les prix des produits revendus par cette coopérative, comme l'explique Siata Ouattara, la présidente de cette organisation.
Aujourd'hui, la concurrence est rude. On va vendre cher aussi notre amande que nous allons produire. Le kilo qui était à 200 francs, aujourd'hui est à 1600 francs. Donc le kilo a triplé. Ça a fait qu'aujourd'hui, le beurre que nous on vendait à 1000 francs, aujourd'hui c'est 2000. Et le kilo qu'on vendait à 1500, 2000, aujourd'hui on est obligé de vendre à 3000.
Cette coopérative réalise l'essentiel de ses bénéfices sur les dérivés du karité, notamment les produits cosmétiques fabriqués à partir des résidus de coques de karité ou encore les briques de tourteau utilisées comme combustible. Binta Diagne, de retour de Bouna, RFI.
Et le prix du karité sera fixé d'ici à la fin juin en concertation avec le conseil coton Anacarde. Et c'est à Bouna que s'achève cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Dans deux minutes, selon votre zone d'écoute, le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou en portugais. Restez avec nous, à tout de suite sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Comment raconter les océans ? À l'occasion de la conférence de l'ONU à Nice, comment parler du vivant si fragile ? Comment décrypter les enjeux scientifiques, économiques et politiques de cette conférence ? Nous en parlons avec Caroline Lachowski et Simon Rosé.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 19h41 et en podcast sur rfi.fr.
Priorité santé.
Raphaël Constant,
vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Comme chaque vendredi, une émission de santé au féminin. Comment lutter contre la sédentarité? Quelle activité physique choisir selon sa condition physique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en tournée en France. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour une série de concerts. Le 20 juin à Marseille, le 26 juin à Paris au New Morning, le 28 au Festival Nuit Métisse de Miramas. Plus d'infos sur le site rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.